du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 21e dimanche. Jésus enseigne dans une synagogue à Capharnaüm. Alors, parmi ses disciples, nombreux qui l'ont écouté lui disent
« Ce discours est raide, qui peut l'écouter ?»
Mais sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet, Jésus leur dit
« C'est donc pour vous une cause de scandale ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est le souffle spirituel qui donne la vie. La chair n'est utile en rien. » Les paroles que je vous ai dites sont souffle spirituel et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui n'ont pas foi.
En fait, Jésus sait dès le début quels sont ceux qui n'ont pas foi et qui est celui qui va le livrer. Il dit :
C'est bien pourquoi je vous ai dit : personne ne peut venir à moi si cela le lui est donné par le Père.
À partir de quoi nombreux parmi ses disciples ne vont plus aller à sa suite et ne marcheront plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12 :
Ne voulez-vous pas partir, vous aussi ?
Simon-Pierre lui répond :
Seigneur, auprès de qui aller ? Tu as des paroles de vie éternelle, et nous, nous avons cru et nous avons connu que toi, tu es le Saint de Dieu.
Jésus leur répond :
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un diable.
Il parle ainsi de Judas, fils de Simon l'Iscariote. En effet, c'est lui qui devait le livrer, lui l'un des 12.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà une scène douloureuse qui nous décrit l'abandon de Jésus par nombre de ses disciples et l'annonce qu'il sera trahi par l'un des 12, l'un de ceux que lui-même a choisi.
Oui, on peut se demander qu'est-ce qui a provoqué cette rupture entre Jésus et beaucoup de ses disciples. On peut aussi se poser la question de savoir ce que signifie exactement dans la bouche de Pierre cette profession de foi, tu es le Saint de Dieu. Et enfin, pour nous aujourd'hui, ce texte est-il porteur de lumière dans notre lien avec Jésus ? Eh bien, voyons d'abord le contexte. Notre récit nous donne la conclusion de l'entretien de Jésus avec la foule et avec ses disciples, un entretien qui a lieu à Capharnaüm après le grand repas des pains multipliés. Dans le récit de Jean, cela marquera pratiquement la fin de la prédication de Jésus en Galilée et le début du déroulement final de sa mission. En effet, les chapitres qui suivent nous montreront Jésus à Jérusalem. Mais ce séjour dans la ville sainte se déroulera sur fond d'hostilité de la part des chefs religieux qui vont chercher à plusieurs reprises à arrêter ce rabbi bien encombrant. Évoquons quelques-unes de ses tentatives.
Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Une fois de plus, ils cherchèrent à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains.
Jésus va alors se retirer en Pérée, au-delà du Jourdain. Il ne reviendra à Jérusalem que pour rendre la vie à son ami Lazare, et cela malgré les risques prévisibles de son arrestation.
« Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner là-bas ?»
La fête de la Pâque, qui est alors toute proche, sera de fait le temps de la passion de Jésus.
Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui.
C'est donc un tournant de la mission de Jésus. Nous sommes les témoins d'une crise grave qui s'est déroulée en terre galiléenne. Des prises de position se clarifient, ainsi pour les uns, ce sera la contestation et l'abandon, pour d'autres, ce sera l'affirmation de leur confiance en leur maître et en son message.
Ce discours est raide, qui peut l'écouter ?
Oui, quelle est donc cette parole difficile à avaler ? Dans l'échange entre Jésus et les Juifs à la synagogue, en effet, Jésus a dit
« C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. »
Lorsque Jésus affirme que sa parole est un pain de vie, il est dans la ligne du symbolisme de la langue juive. En effet, bien des paroles de la Bible parlent de la parole de Dieu comme d'une nourriture. Évoquons quelques textes pris dans Ézéchiel, dans l'Ecclésiastique et dans les Proverbes.
Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, mange-le, mange ce rouleau. Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. La Torah le nourrira du pain de l'intelligence, elle l'abreuvera de l'eau de la sagesse. La sagesse a bâti sa maison, elle a préparé son vin, elle a aussi dressé sa table. Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé.
Voilà donc comment la Bible fait le lien entre la parole et la nourriture. Mais Jésus va pousser davantage le symbole. C'est toute sa personne qui est le pain de la vie.
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie.
Il ne faudrait pas croire, bien sûr, qu'il s'agit ici de cannibalisme. Non, la parole de l'être humain est considérée comme un pain, une nourriture, et lorsque cette parole est riche de toute la personnalité de celui qui la prononce, lorsqu'elle traduit l'engagement sacré de quelqu'un envers un autre, alors c'est tout l'être, la personne tout entière qui se donne. La Bible nous dit « chair et sang » et en français nous pourrions dire « corps et âme ». Pour affirmer qu'on s'engage totalement dans ce qu'on dit, nous disons aussi « je te donne ma parole », ce qui peut vouloir dire « je me donne moi-même en gage pour confirmer que je dis vrai ». Certes, les Juifs semblent s'indigner en disant « comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Mais nous avons peut-être ici un procédé habituel de l'évangile de Jean, où l'interlocuteur feint de comprendre ce qui est dit sur le plan de la réalité physique, matérielle, alors que Jésus lui parle sur le plan de la réalité spirituelle. On connaît de semblables quiproquos avec Nicodème à propos de la renaissance. Un homme vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère, dit Nicodème, et avec la Samaritaine à propos de l'eau. Cependant, la discussion des Juifs et le murmure des disciples portent aussi sur un autre aspect.
Les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ».
L'expression « le ciel » est l'équivalent de Dieu. Jésus se présente donc comme celui qui vient de Dieu. Et il le fait sous deux aspects. D'abord celui de la manne et ensuite celui du Fils de l'homme. Alors évoquons le texte où il parle de la manne.
Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.
Eh bien, cette affirmation rejoint certains commentaires du livre de Josué qui disait que la manne, lorsqu'elle avait cessé de tomber, était gardé comme en réserve au ciel, et cela jusqu'à la venue du Messie. L'autre expression, l'autre aspect par lequel Jésus se présente, celui du Fils de l'homme, eh bien ce titre de Fils de l'homme est lui aussi lié à une tradition biblique. Il remonte en effet au livre de Daniel, où le Fils de l'homme est une personne humaine et quasi divine.
Voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un Fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite.
Eh bien, dans les livres juifs qui sont contemporains des évangiles, le livre d'Énoch et le quatrième livre d'Esdras, le Fils de l'homme est clairement identifié à l'élu de Dieu, au Messie. Dans le récit de Jean, comme dans les autres récits synoptiques, Jésus se nomme souvent le Fils de l'homme. Évoquons quelques phrases de cet évangile.
Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie.
Dans le récit de Jean, cette description du Fils de l'homme va aussi parler de sa descente et de sa montée.
Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Et dans le texte d'aujourd'hui, Jésus dit aussi cette phrase, un peu énigmatique, qui semble une interrogation, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» On songe à ce que dira plus tard le ressuscité à Marie-Madeleine.
« Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
La remontée vers Dieu du Fils de l'homme peut donc signifier l'aboutissement de sa mission. On trouve cette même idée dans le livre d'Isaïe.
Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission.
Oui, cet aboutissement de la mission pour le Fils de l'homme qu'est Jésus va passer par la mort sur la croix.
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir.
Malgré les liens avec la tradition biblique, plusieurs raisons rendent sans doute ce discours difficile à comprendre. D'abord, l'objection de l'origine de Jésus. Selon certaines traditions qu'on trouvait à l'époque de Jésus, le Messie, qui était attendu comme venant du ciel, devait apparaître brusquement, et de plus, on devait en ignorer les origines humaines. Or, les origines de Jésus étaient bien connues, il était quelqu'un de Nazareth.
N'est-ce pas Jésus le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer « Je suis descendu du ciel » Lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est.
On peut rapprocher de cela la réplique de Nathanaël, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Si donc la connaissance des origines tout à fait ordinaires de Jésus ne peut évoquer son origine divine, combien plus en sera-t-il des circonstances de sa mort?
Nous avons appris de la Torah que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire « il faut que soit élevé le Fils de l'homme » Qui est ce Fils de l'homme?
Non seulement donc, selon les traditions, le Messie céleste ne devait-il pas mourir, mais il sera encore plus scandaleux qu'il meure sur la croix. Or, Jésus parle explicitement de sa mort.
Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Ces phrases de Jésus évoquent en effet les sacrifices juifs, où la chair de la victime est mangée et le sang versé sur l'autel. Évoquons le chapitre 12 du Deutéronome.
Tu feras l'holocauste de la chair et du sang sur l'autel du Seigneur ton Dieu. Quant à ces sacrifices, le sang en sera répandu sur l'autel et tu mangeras la chair.
Si la formule « chair et sang » désigne dans la Bible la personne, cette expression peut être aussi employée pour dire la fin tragique de cette personne. Et donc ici, le don sanglant que Jésus fera de sa vie lorsqu'il montera sur la croix. Une mort qui, à l'époque, était celle des criminels et n'avait donc rien de glorieux ni de divin. Il était donc sans doute très difficile pour les auditeurs de Jésus de comprendre le sens de cette mort que Jésus présentait de plus comme devant apporter la vie éternelle à ceux qui seront ses disciples.
Mais il en est parmi vous qui n'ont pas foi.
Parmi les compatriotes de Jésus, certains ne croyaient pas à la résurrection et à la vie dans l'au-delà, notamment les Sadducéens qui formaient l'élite économique et politique. Pour d'autres, comme les Zélotes, qui étaient de véritables révolutionnaires et qui voulaient chasser les Romains, le Messie qu'ils attendaient devait être un leader nationaliste. On verra que les disciples d'Emmaüs, après Pâques, ont aussi cette espérance, c'est ce qu'ils confieront à l'inconnu qui les rejoint sur la route.
Jésus de Nazareth fut un prophète puissant en action et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël.
Les horizons de ces Juifs, et ce sont aussi les horizons de nombreux disciples, sont donc limités à des perspectives terrestres et politiques. Or, Jésus parle, lui, de vie éternelle, de nourriture spirituelle. Il a dit avec force que ses paroles sont capables de faire vivre d'éternité, et cela parce qu'elles sont pleines du souffle spirituel de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont souffle spirituel et elles sont vie. Mais Jésus ajoute aussitôt, il en est parmi vous qui n'ont pas foi. Pour cela, les propos de Jésus vont être une cause de scandale. On sait que le mot juif, traduit par scandale, signifie un piège, et plus largement ce qui fait trébucher et donc chuter. Lorsqu'il est employé pour décrire une relation humaine, ou la relation avec Dieu, le mot scandale dit donc ce qui met en péril la confiance, la foi. Eh bien, beaucoup de personnes vont se trouver scandalisées par Jésus. Ils ne trouveront pas en lui le chemin qui mène vers la communion avec Dieu et donc vers la véritable vie. Cela était vrai des membres de sa famille, au moins avant la Pâque de la résurrection. Ses frères, nous dit l'Évangile, n'avaient pas foi en lui. Simon-Pierre va même être une occasion de scandale pour Jésus lui-même.
Jésus dit à Pierre, « Va arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des choses de Dieu, mais à celles des hommes. »
Quelles sont donc ces pensées qui ne sont pas celles de Dieu et peuvent conduire à faire perdre la confiance en Jésus? À quoi Simon-Pierre réagissait-il de manière trop humaine? Eh bien, il se refusait probablement à voir son maître accepter d'être arrêté par les autorités juives pour être conduit à la mort. Peut-être parce que Pierre voit encore en Jésus un messie politique. Selon les vues de Pierre, on ne peut donc prétendre au rôle de leader d'Israël pour mener à la libération et en même temps annoncer sa mort prochaine. Pour comprendre comment la mort de Jésus peut donner la vraie vie, il ne faut pas croire à la victoire du bien par la destruction des méchants. Autant pour ce qui concerne les humains entre eux que pour la relation de Dieu et des humains, il faut vivre sur le registre de l'amour et du pardon et croire que seul le pardon d'amour peut changer le cœur de ceux qui font le mal. Oui, Dieu est tout-puissant, mais il est tout-puissant seulement en amour. C'est uniquement par l'amour qu'il veut vaincre le mal. La mort de Jésus sera voulue comme un geste de pardon d'amour envers ceux qui le rejettent, et qui le rejettent parce qu'il se veut précisément le visage d'un Dieu Père qui n'est que miséricorde. Voilà peut-être la raison qui amènera Judas à trahir. Si Judas est issu du mouvement des Zélotes, comme on le suppose, il a pu juger que la pensée et la conduite de Jésus ne pouvaient que démobiliser ceux qui voulaient libérer Israël des Romains par un combat violent. Mais Judas ne sera pas le seul parmi les 12 à avoir des moments d'incompréhension qui ébranleront leur confiance en Jésus. Lors de l'arrestation, aucun des disciples ne suivra le maître sauf Pierre. Et c'est alors que Pierre lui-même reniera Jésus. Plus tard, l'apôtre Paul traduira ainsi ce qui a fait le scandale de certains disciples. « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Mais cette pierre rejetée par les autorités juives de l'époque, eh bien c'est elle qui va devenir la pierre d'angle du rassemblement des fils et filles du Père. L'apôtre Pierre l'exprimera clairement après Pâques.
« Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. C'est lui, la pierre que vous les bâtisseurs, aviez mise au rebut, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui.
Mais si cette incompréhension de la véritable mission de Jésus n'est pas seulement le fait des Juifs, mais aussi celui des disciples, comment se fait-il que ceux que Jésus a choisis soient si peu en harmonie avec leur rabbi et leur ami? Eh bien, la réponse se trouve dans la bouche de Jésus. « Personne, dit-il, ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » Aux Juifs qui contestaient qu'il est l'homme qui vient de Dieu, Jésus avait déjà répondu « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Comment comprendre cela? Eh bien, je crois que pour découvrir le Fils de Dieu en cet homme de Nazareth, semblable à nous dans toute son humanité, il faut d'une certaine façon être du même esprit que lui. C'est le souffle spirituel qui donne la vie, la chair n'est utile en rien. La vie divine n'est reconnue que par celui qui en vit. Jésus ne l'a-t-il pas déjà fortement suggéré à Nicodème?
Ce qui est de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut.
Naître d'en haut, c'est devenir fils, fille du Père divin. Les seuls moyens de la raison humaine sont impuissants à faire percevoir le sens profond des paroles et des signes de Jésus. Seul l'Esprit divin peut nous mettre sur la longueur d'onde des réalités spirituelles qui se manifestent en lui. Pour reconnaître le mystère qu'est Jésus, il ne faut pas seulement croire que Dieu est le Créateur et le Maître du monde. Il faut vivre avec Dieu une relation de fils, de fille. Il faut savoir l'appeler Père, comme Jésus le fait. Et cela, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit divin en nous, comme le dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains.
Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».
Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, des filles. Cette filiation divine se réalise dans la mesure où nous apprenons à aimer de la même manière que Dieu et de la même façon que Jésus, c'est-à-dire avec une bonté qui n'exclut personne et qui est toujours prête au pardon. Pour faire cela, pour aimer comme cela, il faut se laisser engendrer par le Père. Cela ne se fait pas, bien sûr, en un instant. C'est une œuvre de longue haleine, de toute notre vie. Mais c'est quelque chose qui implique la prière silencieuse, qui est en effet cet espace où nous faisons place à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse façonner notre cœur, façonner notre intelligence, notre volonté, pour qu'il nous apprenne à agir à la manière de Dieu, avec bonté et gratuité, alors que notre nature humaine est malheureusement plus spontanément portée à dominer, à posséder, à accaparer. Oui, être attiré par le Père, c'est se laisser conduire chaque jour par son esprit.
Ne voulez-vous pas partir, vous aussi? Seigneur, auprès de qui aller? Tu as des paroles de vie éternelle.
À qui aller? Demande Pierre. Et il reprend le même verbe que pour les disciples qui vont partir. Nombreux parmi ses disciples ne vont plus aller à sa suite. Pierre affirme donc sa confiance en Jésus comme le maître auprès duquel on peut aller pour vivre de vie divine, pour recevoir cet esprit de Dieu qui nous fait fils et filles. Jésus est plus qu'un simple rabbi. Il est le Saint de Dieu, l'envoyé du Père, l'homme qui vient de Dieu et qui peut guider vers les eaux de la vie divine éternelle.
Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle.
Dans le récit de Matthieu, Jésus dira à Pierre que ce n'est pas la seule raison humaine qui lui a permis de découvrir en lui le Fils unique du Père.
Heureux es-tu, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. »
Curieusement, Pierre ne reprend aucun des titres que Jésus s'est donné, le pain de vie, le Fils de l'homme. Ici, il ne donne pas non plus à Jésus le titre traditionnel de Messie. Le titre « le Saint de Dieu » peut être, aux yeux du récit évangélique de Jean, dit sans doute le lien fort entre Jésus et celui qu'il appelle son Père et qui est le seul Saint, comme le disent tant de textes bibliques, évoquant quelques-uns dans le prophète Isaïe.
« Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Ainsi parle le Seigneur, ton libérateur, le Saint d'Israël. « Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par le chemin où tu marches. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur Dieu est son nom. Le Saint d'Israël est ton libérateur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. »
Dans le récit de Jean, deux endroits viennent confirmer ce titre de saint appliqué à Jésus.
« Celui que le Père a fait saint et envoyé dans le monde, vous lui dites « tu blasphèmes, parce que j'ai dit « je suis fils de Dieu ».»«
Celui que le Père a fait saint. » Et lors du dernier repas, Jésus priera ainsi pour ses disciples.
« Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. »
C'est parce qu'il s'est laissé inspirer par Dieu que Pierre peut déceler en Jésus celui dont la parole conduit à vivre de la vie véritable qui est la vie même de Dieu. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que toi, tu es le Saint de Dieu. Cette foi de Pierre vient d'une connaissance qui est celle de l'amour. C'est le sens, on le sait, du verbe « connaître » dans la langue de la Bible, qui désigne les relations intimes entre les personnes. Comme toute connaissance entre des personnes, cela ne peut se faire par la seule raison. Il faut aussi l'amour. Et là où est l'amour, là aussi est la liberté. N'est-ce pas cette liberté qui nous est fortement signifiée en conclusion de notre récit ?
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ? Et l'un de vous est un diable.
Une phrase qui, au long des siècles, pourra s'adresser à plus d'un disciple de Jésus. Oui, devant le drame de la trahison de l'ami, ne sommes-nous pas devant le mystère de l'amour ?
C'était « Du pain sur la table », une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an aux cassettes ou aux feuillets. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
« Du pain sur la table » est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.